Chapitre 4. Rentrant, Barbara trouva Hermine accroupie auprès de l'âtre, par terre, la tête enveloppée de ses tresses dénouées et renversée contre le mur. Elle s'était endormie dans son désespoir. La baronne l'éveilla en lui touchant doucement le genou du bout de son pied. Elle entr'ouvrit les yeux, mais ne bougea pas. Barbara, entrant dans la chambre de Marianne, appela ce dernier, alluma une bougie, revint auprès d'Hermine et l'interrogea. « Il est parti, » répondit la bohémienne. « Parti, mais pour me rejoindre au théâtre, peut-être. Non, pour Coloméa. Mais il n'a pas un kreutzer sur lui. Mais il est parti, cependant. » Barbara retourna dans la chambre, fouilla partout, compta son or, inspecta son écrin. Il n'avait rien emporté. Ayant constaté cela, elle tomba éplorée dans un fauteuil. Le vide laissé par ce départ lui devint de jour en jour plus sensible. Mirosoff et sa sœur l'importunaient. Elle avait pris l'Italie en grippe. Sans même dire adieu à ses amis, elle quitta Rome brusquement et passa quelques mois à Paris. L'été la retrouva, comme de coutume, dans sa seigneurie de Separovse. Le premier soin de la baronne avait été de s'informer de Marianne. Elle apprit que, gravement malade, celui-ci avait été recueilli par un pauvre maître d'école du voisinage. Elle lui écrivit une lettre pleine de tendres reproches. Marianne ne répondit pas. Elle écrivit de nouveau, se plaignant de son ingratitude. Point de réponse encore. Alors elle cessa d'implorer l'amant et s'adressa au débiteur, le priant de lui rendre par fraction la somme qu'il lui devait. Même silence. Le temps s'écoula et peu à peu elle parut oublier le pauvre Marian Janowski, mais une rencontre inattendue vint rafraîchir sa mémoire. C'était par une après-midi d'automne. La baronne avait fait en compagnie de sa fidèle Hermine une assez longue promenade et retournait chez elle fatiguée. Les rayons du soleil bruisselaient tièdes et clairs sur le feuillage devenu rare et qui brillait des plus beaux tons de pourpre comme un fleuve d'or roulait des feuilles tombées que l'on foulait aux pieds et que le vent poussait devant lui par tourbillons. Le ciel était d'un bleu pâle, admirablement limpide, mais dans l'air flottait une odeur lourde et stupéfiante qui rappelait un peu l'église et tout autant la cave. Le lointain était barré par une de ces murailles basses et grises que forment les brumes en s'amoncelant des fils de la Vierge s'accrochaient aux chaumes et aux herbes desséchées. Un vol de grues se dirigeait vers le sud. Bientôt on n'en vit plus qu'un triangle noir qui se dessina sur le ciel, tandis que de temps à autre, les cris stridents des oiseaux voyageurs retentissaient dans le lointain comme un appel de détresse. Une cigogne retardataire, perchée sur une grange, faisait tristement claquer son bec. On eût dit la crécelle de bois du Vendredi Saint. Aucun oiseau ne gazouillait plus. L'œil eût vainement cherché dans l'espace l'aile diaprée d'un papillon. C'en était fait de la danse des moucherons à travers les flammes rouges du soir. C'en était fait du concert des grillons et du bourdonnement des abeilles. Un solennel silence régnait dans la nature. Il faisait penser à ce calme qui se répand sur le visage d'un mort après qu'ait exhalé le dernier soupir. Au milieu de ce silence, sous ces mourantes lueurs, Barbara vit tout à coup Marianne, assise sur un banc de bois au seuil d'une maisonnette. Ses mains étaient jointes devant lui. Ses grands yeux bleus, levés vers le ciel, semblaient suivre le vol des oiseaux de passage qui émigraient vers le sud. Et qu'il était pâle, à peine tenait-il encore à la terre. La baronne frissonna, fondit en larmes, puis elle rebroussa chemin précipitamment. Il était impossible de passer devant le spectre de celui qu'elle avait aimé. Aux premières neiges, elle regagna le Merg. Là, elle apprit dans une fête chez le gouverneur, de la bouche de certains gentilshommes qui avaient des terres dans le voisinage de Kolomea, que Marian Janowski n'atteindrait pas le printemps, et qu'il lui manquait du strict nécessaire si quelques amis d'autrefois, entre autres un vieux juif, ancien factotum de son père, ne l'avaient point secouru. Le lendemain, Barbara se rendit chez un procureur qu'elle chargea de poursuivre Marianne selon la loi. Lorsque celui-ci reçut la sommation, il ne fit que sourire et déchira le papier en deux morceaux qu'il jeta au feu. « Mais l'affaire peut se discuter, lui dit le maître d'école qui l'hébergeait. Ne la remettrez-vous pas entre les mains d'un avocat ?»« Oh !» dit Marianne avec un nouveau sourire. « J'ai déjà le meilleur des avocats, celui contre lequel tous les tribunaux du monde sont impuissants, la mort. » Un soir, on entendit dans la rue un joyeux tintement de grelots, et la porte du malade s'ouvrit avec impétuosité pour livrer passage au maître d'école. Puis ce brave homme s'arrêta tout à coup, sourit, toussa, cracha d'un air embarrassé. Il finit par bégayer. « Monsieur le bienfaiteur, il y a quelqu'un là. »« Mais qui donc ?» demanda Marion avec effroi. « Ben, une dame qui... Oh, quel bonheur, une dame qui... Ben, voyez vous-même. » Sur le seuil parut une femme enveloppée de voiles épais. Le malade se redressa, et la dernière goutte de sang qui restait dans ses veines monta violemment à ses joues. Mais déjà la femme voilée lui tendait le bras et venait s'agenouiller près de sa chaise. « Marianne, murmura-t-elle d'une voix qui n'était pas celle de Barbara. « Mon Dieu, est-ce possible? Vous, Théophile, vous? Mais qu'est-ce qui vous amène ?»« Tu me le demandes ?» dit Madame Janowska en arrachant son voile. « Tu me le demandes et je suis ta femme et tu souffres. » « Oh, sois tranquille sur ce point. Dieu me délivrera bientôt. « Je suis venu pour te soigner, » s'écria la bonne créature. « Si tu le permets, » ajouta-t-elle avec crainte. « Ah, pauvre ami, tu seras bien mal ici. » « Bon, mais nous arrangerons. » Elle n'en dit pas davantage, mais se mit à déballer mille petites choses qui soulagent les malades et dont Marianne avait été privée jusque-là. Lorsque Hermine, avec un plaisir visible, apprit cette nouvelle à sa maîtresse, celle-ci eut une attaque de nerfs. « Cette femme est auprès de lui, elle le soigne, elle fait venir des médecins en consultation. » Et tout cela grandu avec mon argent? Oh, les hommes n'ont ni honneur ni conscience. À mesure que la terre s'éveillait sous le souffle du renouveau, Marianne se sentait mieux. Patience, lui disait sa femme, encore quelques semaines et nous aurons le printemps. Tu guériras tout à fait. Pour jouir du bien-être que je ressens, répondit le malade. Il faut qu'un homme soit bien près de la mort. La vie ne s'annonce pas si consolante et si légère. Déjà, les frimas fondaient le long des vitres. Un vent doux passait sur la plaine de neige. Le fleuve rompait ses chaînes avec un bruit de tonnerre, et de tous côtés naissaient des ruisseaux qui descendaient vers lui en murmurant. Une vapeur humide s'élevait sans cesse. De grosses gouttes d'eau, pareilles à des larmes, perlaient aux fenêtres. C'était partout un bruissement perpétuel. Encore un jour, encore un, et la terre, dépouillée de son linceul, s'épanouirait dans une vapeur bleuâtre. Des petits nuages de ouate moutonnaient sur le ciel serein. Le sol fumait et remplissait l'air d'un parfum frais, capiteux, enivrant. Les corbeaux s'envolaient lourdement vers la montagne. Les moineaux pépillaient sur les branches encore nues et dans les haies qui servent de clôture aux chaumières. Le gazon flétri se parait d'une verdure nouvelle. Tout était si distinctement dessiné par le vigoureux éclat du soleil que le moindre petit tronc d'arbre sur la colline lointaine, chaque abreuvoir perdu au sein des pâturages, apparaissait avec une netteté extraordinaire. Déjà commençaient dans les airs ces jeux folâtres, ces chansons auxquelles succède bientôt l'épanouissement complet de tout ce qui vit. Un jour, une hirondelle, cherchant son ancien nid, entra sous le porche. Elle voltigea quelques minutes de ça de là avec des petits cris, puis elle s'égara jusque dans la chambre du malade, où après avoir fait 1000 tours, elle finit par se reposer sur le dossier de sa chaise en clignant ses petits yeux noirs. « Elle nous apporte le printemps, » dit Théophile avec joie. « Ne dirait-on pas qu'elle va nous conter des nouvelles de ces beaux pays lointains où il n'y a pas d'hiver ?» Le malade se retourna et regardant l'oiseau familier. « Oui, oui, » dit-il. Elle vient me parler d'un pays où il n'y a plus d'hiver, plus d'orage, plus de douleur, plus de déception. Ne connais-tu pas la croyance populaire ? L'hirondelle qui entre dans la chambre en volant est une messagère de paix, une messagère de mort. Mais pourquoi ces tristes pensées ? Oh, ne sont pas tristes, Théophile. Elles me sont très douces. Cette nuit, j'ai rêvé que je volais moi aussi, et tandis que je m'élevais de plus en plus haut, la terre se déroulait au-dessous de moi comme une broderie bigarrée. Les rivières n'étaient plus que des fils d'argent, et les nuages voguaient dans l'azur comme des cygnes sur une nappe d'eau. S'envole-t-on quand on est mort ? Je voudrais m'envoler. Le même jour, il fut saisi d'une grande faiblesse, mais refusa de se coucher. Il sourit lorsque les huissiers de Coloméa entrèrent pour saisir ses meubles au nom de la baronne Promirska. Il les observa en souriant toujours, tandis qu'ils inscrivaient consciencieusement ses habits râpés, son linge usé, ses vieilles bottes. « Le reste m'appartient, » dit sa femme, mettant la justice à la porte. L'hirondelle était sortie depuis longtemps. Mais Marianne croyait toujours l'entendre. Il la cherchait à travers la chambre. La nuit, il demanda une fois à boire, puis voulut s'habiller. On lui obéit, on lui donna ses vêtements, on le porta jusqu'à la fenêtre. « Laisse entrer, » dit-il à sa femme, « l'odeur des fleurs nouvelles. J'ai senti le printemps. Que c'est doux, que c'est bon. » Théophile hésitait à ouvrir la fenêtre, mais Marianne fit un mouvement des paupières qui signifiait « Désormais, peu importe. » Et la fenêtre fut ouverte. « Ne la referme pas, » dit le mourant, « qu'après que je ne serai plus, afin que mon âme puisse s'envoler. » Il resta quelque temps tranquille, comme s'il eût respiré avec délice l'air embaumé. Tout à coup, sa tête se renversa et il se mit à chanter tout bas. « Petite moissonneuse, aiguise ta faucille, dans la steppe, belle fille, le froment est mûr. » Au matin, revinrent l'huissier, le clerc et le juge du village. Ils avaient reçu l'ordre express de conduire en prison Marianne Janowski, la baronne Bromirska ayant demandé, outre la saisie, la contrainte par corps. Théophile est conduisit dans la chambre funèbre où brûlaient 6 grands cierges autour de Marianne, qui, pâle, paisible, plus beau que jamais, les mains jointes sur les fleurs qui jonchaient sa poitrine, semblait dormir. La fenêtre était restée ouverte, et sur le rebord, l'hirondelle, familièrement perché, jetait son petit cri doux et triste devant le catafalque drapé de noir. « Le voici, » dit avec amertume Madame Janowska. Conduisez-le en prison, si vous voulez. Les trois hommes firent le signe de la croix et s'agenouillèrent pour réciter une prière. Lorsque Barbara reçut le billet de mort à marge noire, elle s'évanouit. Et longtemps après qu'elle fut revenue à elle, ses larmes coulèrent en abondance. Hermine resta pelotonnée dans un coin jusqu'au soir, et du soir jusqu'au matin sans rien dire. Le lendemain, elle fit offrir le saint sacrifice pour le repos de l'âme du défunt et pria de tout son cœur. Le premier rayon du soleil d'été ramena la baronne à ses paroissiens. Elle apprit que Madame Janowska habitait encore la maison où était mort Marianne et résolut d'aller lui rendre visite. La veuve, en grand deuil, la reçut avec plus de surprise que d'indignation. Elle répondit à toutes les questions qui lui furent posées sur les derniers moments de son mari. Barbara, ayant fini de l'interroger, regarda, non sans quelque embarras, ses ongles roses et murmura timidement « Parlons, s'il vous plaît, de la somme que me devait le pauvre homme. Vous savez bien la somme. Ma foi, il me semble que vous n'avez épargné aucun moyen pour nous la faire rendre, » répondit froidement Madame Janowska. Je croyais, fit Barbara en soupirant, je supposais, enfin, je compte sur votre honnêteté. Hermine tirait énergiquement sa maîtresse par la robe, mais elle ne réussit pas à l'arrêter dans cette ignoble réclamation. Car enfin, continua la baronne, vous vivez de mon argent. De votre argent ? S'écria la veuve en se levant toute droite. « Avez-vous bien l'impudence de venir parler ici de ce commerce d'âmes, femme et hontée ? Ainsi vous croyez m'avoir payé le sacrifice que je vous ai fait ? Vous ne le pouviez pas, m'eussiez-vous donné dehors du monde. Je me disais que mon mari, qui vous aimait, oui, serait heureux comme il ne pouvait l'être qu'avec moi. Voilà pourquoi je vous l'ai donné, négligeant en échange que mon pain quotidien, afin de ne plus lui être à charge, afin qu'il fût heureux. » répéta Théophile dans l'obstination de son étrange dévouement. L'a-t-il été ? Non ! Vous nous avez trompés tous les deux, moi et lui. Je vous en prie, murmura Barbara, ménagez mes nerfs. Mais sa mort est sur votre conscience, répéta sans l'entendre Madame Janowska. Vous l'avez tué ! Que son spectre vous poursuive ! La baronne trembla sous cette menace. « Mais de grâce, répétait-elle en s'efforçant de gagner la porte. Oh, de moi, vous n'obtiendrez rien. Oh non, rien. Pas un kreutzer. Emportez ces vieilles nippes si vous voulez. Tenez, ceci vous appartient. » Mais Madame Bobirska avait pris la fuite. Une fois dehors, Hermine lui dit brusquement. « Rentrez toute seule, j'ai encore du chemin à faire. Où vas-tu donc ? À son tombeau. Oh, Minoshka, ma chère Nouchka, supplia la baronne, n'y va pas. Ne fais pas cela, je ne dormirai pas de la nuit. Peu importe, répondit la bohémienne en s'échappant. Lorsqu'elle revint le soir, Barbara la regarda tout émue. Qu'as-tu été faire là ? Demanda-t-elle enfin. Planter des fleurs sur son tombeau. Tu les as plantées toi-même, moi-même. Oh, Jésus-Marie, ne me touche pas. Va-t'en, va-t'en. Elle se déshabilla toute seule, tant était grande son horreur pour ses mains qui avaient touché la terre où reposait Marianne. Mais au coup de minuit, Hermine la vit se précipiter dans sa chambre, un flambeau à la main, et le visage revêtu d'une pâleur livide. « Je meurs, dit-elle, je deviens folle. Je l'ai vu, je l'ai vu. » « Qui donc ?»« Le mort. » Et ses dents s'entrechoquaient en parlant. « J'ai senti son souffle froid comme la tombe, et quand j'ai ouvert les yeux, il était là, debout devant mon lit, et me faisait signe. » Eh bien, répliqua Hermine, c'est une punition du ciel. Vous l'avez bien méritée. Je souhaite qu'elle se renouvelle chaque nuit. Nouchka, peux-tu me faire perdre l'esprit ? Sanglota la baronne. Oh, je commanderai 100 messes pour lui. Crois-tu que cela me viendra en aide ? 50 messes, qu'en dis-tu ? Reprit-elle après une pause qui lui avait suffi apparemment pour se calmer un peu. Lorsque la joyeuse lumière du jour entra dans la chambre, Barbara trouva que 10 messes seraient assez, et après le déjeuner, elle envoya Hermine chez le curé pour commander une seule messe, qui ne fut suivie d'aucune autre, le spectre de Marianne Jolovski ne s'étant plus montré. La baronne avait 30 ans à cette époque, c'est-à-dire l'âge où une femme bien portante est à l'apogée de ses charmes et est plus dangereuse que jamais. Le bonheur ne voltige plus devant elle comme un papillon chatoyant, mais il se couche à ses pieds comme un chien soumis. La tête de Barbara rappelait la beauté sévère de la Vénus au miroir du Titien. Sa haute taille, sa démarche avaient autant de grâce que de majesté. Elle était riche, tout le monde lui rendait hommage, elle pouvait satisfaire tous ses désirs, et cependant elle n'était pas contente. Une perpétuelle inquiétude qu'elle attribuait à ses nerfs malades la tourmentait sourdement. Chaque jour, son médecin lui donnait de nouveaux conseils. Enfin, il trouva l'œuvre de Christophe Colomb. « Il vous faudrait plus d'activité, madame, » dit-il gravement. « Occupez-vous de quelque façon utile. » Barbara s'occupa en effet de la manière qui, à son point de vue, était la plus utile. Elle était entrée en relation à Lemberg avec un juif du nom de Gottesmann. Ce personnage aussi dévot que rusé possédait toute sa confiance. Gottesmann n'était certes pas ce qu'on appelle un honnête homme, mais il avait une habileté merveilleuse pour esquiver la loi sans se compromettre. De concert avec ce juif, la baronne commença donc à dépenser utilement son activité selon l'ordonnance du médecin. L'hiver, elle habitait Lemberg et l'été, c'est par l'Obsé, s'occupant à la campagne comme à la ville d'affaires aussi variées qu'intéressantes. Elle prêtait de l'argent avec une surprenante obligeance aux officiers, aux fils de famille qui étudiaient dans la capitale, aux petits employés. L'embarras de ces pauvres gens l'amusait. Les imbroglios, les scènes de drame auxquelles il la faisait assister, avaient pour scélère détendue un charme indicible. Elle buvait leurs larmes comme du champagne. Quand un lieutenant, ayant engagé sa parole d'honneur, se voyait sur le point de perdre son grade, quand un jeune gentilhomme déshérité par suite de ses folies parlait de se brûler la cervelle, quand un père de famille criblé de dettes se tordait à ses pieds, tel qu'un ver qu'on écrase, alors elle jouissait réellement de la vie et savourait jusqu'au moindre détail de la situation sans en dédaigner un seul. D'abord, elle feignait d'être inflexible, puis elle accordait une vague espérance, comme si les prières de ses débiteurs aux abois et quelques acomptes toujours bien reçus l'eussent désarmé, mais la saisie ne s'en suivait pas moins. Les atermoiements n'avaient d'autre but que de rassurer ses victimes afin de lui permettre de fondre sur elle à l'improviste. Quand elle avait traîné enfin sa proie en prison, Barbara rentrait dans son argent et il se trouvait que sans rien risquer, elle avait savouré quelques agitations délicieuses. Mon Dieu, disait-elle, il y a des femmes qui font venir leurs toilettes de Paris, des hommes qui entretiennent plusieurs maîtresses à la fois. Moi, je dégoûte au particulier. Mon unique plaisir est d'avoir quelques pensionnaires sous les verrous de la prison pour dette. Aux véritables indigents, elle ne donnait jamais une obole, car la satisfaction de les torturer ne l'eût jamais dédommagée d'une perte. L'avidité l'emportait encore chez elle sur la jouissance qu'elle éprouvait à faire sentir aux malheureux le pouvoir de l'argent. Plus la baronne gagnait, moins elle devenait scrupuleuse dans ses spéculations. Elle prêtait sur des immeubles, sur le blé, sur des marchandises de toutes sortes. Si le paiement ne s'effectuait pas au jour dit, elle posait sa belle main blanche sur l'objet engagé. L'exécution avait lieu et, à la vente, M. Gottesman se rendait d'ordinaire acquéreur à vil prix pour revendre ensuite le plus avantageusement possible. Nombre de marchés frisaient la ligne de séparation qui, fine comme un cheveu, est tirée entre les choses permises et les choses défendues. La baronne tendait volontiers ses filets sur les terrains vagues où la justice n'a point de prise. Ainsi, elle possédait, par indivis avec un parent de feu son mari, certaines maisons à Cracovie. Il arriva qu'un seigneur des environs voulut acheter un immeuble. Varvara s'empressa de recommander la maison de Cracovie, mais elle passa sous silence ce détail peu important qu'elle en possédait la moitié. La maison valait 40 000 florins. Selon le conseil de son astucieuse parente, le cousin de Blomirski, agissant comme propriétaire unique, demanda le double de cette somme. Mais M. Gottesman, qui s'était posé en entremetteur, conseilla fortement l'acquéreur de ne donner que 60 000 florins, pas un kreutzer de plus. C'était aussi l'avis du gentilhomme. Malheureusement, il lui manquait 20 000 florins. Gottesman lui procura donc cette somme à 12%. La baronne donna l'argent et l'affaire fut conclue. Varvara reçut aussitôt sa part de 20 000 florins, plus 10 000 florins pour l'argent prêté. Elle trouva moyen en août de grappiller 10 000 francs de chicane. Autant la baronne était indulgente pour elle-même, autant elle se montrait sévère pour autrui. Elle dépouillait sans scrupule, mais le sens moral s'éveillait chez elle dès qu'elle se sentait lésée, si peu que ce fût. Ah, il fallait la voir alors fulminer des malédictions contre les coupables. Un de ses fermiers, ruiné par la grêle ou par un incendie, venait-il la supplier d'avoir un peu de patience? Elle se tordait les mains en s'écriant « Oh, mais désormais, je me fierai à personne, non, à personne, moi qui vous croyais honnête homme. N'est-ce pas, Hermine, toi aussi, tu le croyais honnête? Et maintenant, vous descendez au rang des voleurs, des bandits. Oh, retirez-vous, sortez de ma présence. » Quiconque lui faisait perdre un liard, c'était aussitôt d'être honnête. Hélas, bien d'autres que Varvara voient un sot sans chacun des pauvres airs qu'il rançonne et un frisson en celui qui leur fait du tort. Le monde juge-t-il autrement? Nos créanciers ne sont-ils pas toujours à nos yeux des bourreaux et nos débiteurs des coquins? Demander à Varvara un peu de pitié pour des paresseux, des prodigues, des maladroits, c'eût été vraiment trop exigé d'une femme raisonnable. Jamais elle n'eut cette faiblesse à se reprocher. La sensibilité ne lui joua jamais de tour. Ses nerfs eux-mêmes devaient être au besoin singulièrement calmes. Le grincement d'un clou sur un mur les eût exaspérés, mais le spectacle d'une exécution ne les chatouillait que très agréablement. C'est que la richesse endurcit plus vite un cœur que l'eau bouillante ne durcit un œuf. Varvara ne se laissait donc ni persuader, ni toucher, ni intimider. Elle montrait même une telle intrépidité lorsqu'il s'agissait d'argent qu'elle faillit devenir un jour victime de son héroïsme. Un voisin de Varvara, le seigneur Popovitch, petit Russien, grand faiseur de projets qui bâtissait aujourd'hui un moulin pour y ajouter demain une boulangerie à vapeur, quitte à démolir le tout dès que lui souriait un nouveau système, le seigneur Popovitch, un songe creux de la première sorte, occupé tantôt de l'invention d'un vaisseau perfectionné, tantôt de celle d'un canon ou d'un ballon modèle, eut le malheur de découvrir sur ses terres une argile qui lui sembla propre à faire de la porcelaine. Aussitôt, le projet d'une fabrique de porcelaine germa et mûrit dans son esprit, mais l'argent comptant lui manquait pour l'effectuer. Il rendit visite à sa voisine et développa ses idées d'une façon qui séduisit apparemment la baronne, car celle-ci n'hésita pas à lui remettre 10 000 florins contre une lettre de change payable au bout d'un an. Bien que le bon jeune homme eût été contraint d'écrire 12 000 florins au lieu de 10 000, il ne manquait jamais depuis de faire l'éloge de son obligeante voisine. Les constructions avançaient, il se procura des machines, prit des ouvriers, mais avant le terme échu, il lui fallut encore emprunter 3 000 florins, ce qui ne l'empêcha pas d'être obligé de s'arrêter peu après, faute de ressources. L'échéance vint, il dut demander un délai. Barbara lui accorda 6 mois s'il voulait s'engager pour 15 000 florins. Lorsqu'il fit de nouveau appel à sa patience, elle se montra moins accommodante et en négligea 20 000, toujours payables dans 6 mois. Mais le malheureux Popovitch se trouvait de plus en plus embarrassé. Barbara n'hésita pas ensuite à faire saisir la forêt et le moulin. Elle gagna encore 10 000 florins à cette saisie. Plus que jamais, l'infatigable Popovitch cherchait de l'argent pour achever sa fabrique. Cette fois, M. Gottesman intervint comme une fée bienfaisante et procura 5 000 florins pour lesquels le propriétaire souscrivit un billet de 6 000 qui en 2 années s'éleva jusqu'à 12 000 sans que la fabrique pût être encore mise en activité. Au jour de l'échéance, le pauvre Popovitch fut tout surpris de voir la plus aimable femme du cercle, comme il l'avait longtemps nommée, faire main basse sur la métairie, les troupeaux, les pâturages, et enfin sur la fabrique. Il se consola par un nouveau projet. En fouillant ses champs, il avait trouvé du charbon de terre. Cela valait une mine d'or. Naturellement, l'exploitation lui coûta cher. Mais une bonne fortune lui fit rencontrer certains gros juifs qui lui procura 2 000 florins. Ce fut le dernier emprunt de ce constructeur de châteaux en Espagne. La seigneurie, la terre furent vendues par autorité de justice. Ensemble, elles valaient bien 40 000 florins. Les enchères, cependant, n'atteignirent pas cette somme, ou plutôt à la première et à la seconde enchère, aucun acheteur ne se présenta. À la troisième, la plus aimable femme du cercle offrit 2 000 florins et la propriété lui fut adjugée. Alors seulement les yeux du bon Popovitch s'ouvrirent. Ils s'ouvrirent même très grands, si grands que sa charmante voisine lui fit soudain l'effet d'une ogresse qui avait dévoré le pauvre nain membre par membre, comme on mange un artichaut feuille à feuille. Un instant, il forma le suprême projet de mettre le feu à sa maison, mais il s'en tint finalement à celui de partir pour Baden, où le râteau du croupier balaya son dernier sou. On le revit dans le pays quelque temps après, déguenillé, en bottes trouées. Ainsi vêtu, il osa se présenter dans le salon de la baronne. « Que voulez-vous ? » lui demanda celle-ci avec hauteur. « Mais je veux mon argent, je veux mon moulin, mes champs, ma maison. Mais je crois que vous avez perdu la tête. » Barbara s'est levée, mais Popovitch l'a saisie par le bras et tira un couteau. « Misérable ! » s'écria-t-il, « voilà tes intérêts !» Et en même temps, il lui portait à la poitrine un coup qui ne la blessa que légèrement, car le pauvre diable ne savait ce qu'il faisait, il était ivre. Elle appela au secours. Popovitch laissa tomber le couteau. Il essayait de l'étrangler quand les domestiques accoururent. Il fut terrassé. « Attachez-lui les mains !» cria la baronne. « Il a voulu m'assassiner. Frappez, frappez-le et traînez leur justice !» Maintenant, Popovitch implorait sa grâce, déclarant qu'il n'avait voulu que l'effrayer, mais ce fut en pure perte. Roué de coups, à moitié mort, il fut jeté dans une charrette pour être conduit à Coloméa. La baronne parut aux assises dans une toilette élégante pour témoigner contre lui. Lorsqu'elle l'eut entendu condamner à 3 années de prison, considération prise des circonstances atténuantes, elle fronça le sourcil et dit qu'il n'y avait pour elle de tel drôle qu'un seul châtiment, la potence, et qu'il fallait les arracher comme autant de mauvaises herbes. Elle envoya même au journal de Vienne un article de plainte et de récrimination contre la justice galicienne. Tout endurcie que fut cette femme, elle ne pouvait cependant se passer d'affection, et non pas seulement de cet amour sensuel qu'elle en était venue à demander au valet de bonne mine dont elle s'entourait volontiers, mais de pur dévouement. Aussi, l'empire d'Hermine grandissait-il tous les jours. La bohémienne tyrannisait et opprimait sa maîtresse, réglant sa nourriture, sa toilette, ses plaisirs, s'amusant parfois à la faire pleurer tant elle se montrait impertinente et capricieuse. N'importe, la baronne tenait à elle par-dessus tout. C'était l'unique créature qui, croyait-elle, lui appartint sincèrement. Or, il n'est pas de corps au monde qui s'affranchisse complètement du besoin d'aimer et d'être aimé, fût-il en apparence de pierre ou de glace. Bien des années s'étaient écoulées depuis la nuit où Marianne Janowski, près de mourir, avait salué le printemps, lorsque je fis connaissance avec la baronne Brominska. L'incident qui me conduisit chez elle était des plus simples. Il s'agissait de lui présenter une liste de souscriptions ouverte par quelques amis des arts en vue d'envoyer un jeune peintre d'avenir étudier sous le ciel et au milieu des chefs-d'œuvre de l'Italie. L'un des premiers noms inscrits sur la liste était celui de la baronne. Je me présentai chez elle dans l'après-midi. Cette chaleur tropicale qui distingue l'été galicien, aussi court qu'il est ardent, desséchait la terre qui, soulevée par le sabot de mon cheval, tourbillonnait autour de moi comme un nuage de fumée. Le ciel, d'un bleu foncé pur et puissant, resplendissait des feux implacables du soleil. On ne sentait aucun souffle d'air, aucun chant d'oiseau ne se faisait entendre. L'herbe semblait brûler au bord des ruisseaux taris. À l'horizon se détachaient nettement sculptées les cimes des Carpates. J'éprouvais une sensation de soulagement délicieuse en m'enfonçant sous les futaies de ces palorcées. Les vieux chênes formaient une voûte de verdure que perçaient çà et là des flèches de lumière dorée. Du fond des ravins où roulait le torrent, une douce fraîcheur monta vers moi, mêlée à des arômes de miel sauvage. Ma surprise fut grande, cependant, en atteignant une clairière non loin de la seigneurie, de me trouver au milieu d'un abattage qui permettait aux rayons du soleil de pleuvoir en liberté. Les souches grises, avec leurs longues barbes de mousse et leurs racines largement étirées, faisait penser à une armée de gnomes prête à entrer en bataille contre les géants de la futaie. Partout s'alignaient des bûches toisées ou de grands troncs abattus. De distance en distance, un titan renversé, ses rameaux encore parés de quelques feuilles sèches, barrait le chemin. Des centaines de coléoptères en cuirasse vert doré fourmillaient dessus et l'écorce fendue laissait couler la résine comme coule le sang d'une blessure mortelle. Deux bûcherons étaient en train de mutiler un beau vieux chêne. Un pic au plumage bleuâtre semblait parodier leur travail en frappant du bec contre le tronc d'un autre arbre avec un bruit mesuré. « Qui donc fait abattre ce bois magnifique ?» demandai-je au bûcheron. « Qui ?» répéta l'un d'eux en posant sa pioche pour essuyer la sueur qui couvrait son visage. Ah, « Qui serait-ce, sinon la dame ne sait pas l'oncer. Elle a besoin d'argent pour l'enfermer dans ses coffres, elle n'en a jamais assez. » Ce que je vis à ces paroles ne s'accordait que trop avec le jugement du bûcheron. On eût dit que la guerre venait de traverser la seigneurie et que les ravages du canon avaient été à peine réparés. Un habit de mendiant, rapiécé de toutes couleurs, n'est pas plus bigarré que ne l'était le château de cette riche baronne Bromirska, dont tout le monde enviait l'opulence. le fronton de la maison, primitivement peint en rouge rehaussé de bleu de ciel, avait laissé tomber par places cet enduit et ressemblait à quelque écran de tapisserie rongé par les teignes. La toiture avait évidemment besoin des soins du couvreur. La cheminée croulante, réduite à la moitié de sa hauteur primitive, semblait s'accroupir tel qu'un vieux chat noir. Les vitres salies étaient en un endroit remplacées par des morceaux de papier collé. Ici, un bouchon de paille remplissait quelques trous. On avait barré plusieurs fenêtres avec des planches qui leur donnaient un air de prison. Entre les lames d'une jalousie couverte de poussière, passaient et repassaient une myriade de moineaux qui avaient installé leur nid derrière ce rempart mobile. Un autre volet ne tenait plus que par un seul gond et semblait destiné à remplacer dans la tempête la grinçante girouette qui manquait au toit, bordée de ce qui semblait d'abord un étrange travail de sculpture et de ce qui n'était en réalité qu'une guirlande pressée de nids d'hirondelles. Les hirondelles apportent le bonheur, selon une croyance populaire, aux maisons qu'elles choisissent. Pour cette raison, sans doute, la baronne les tolérait. La grange, construite en longueur auprès de l'habitation, rappelait par ses poutres détachées, ses bardeaux pourris qui laissaient entrevoir la nudité des olives, la carcasse gigantesque d'un animal antédiluvien. De l'autre côté de la seigneurie, s'étendait un jardin mal entretenu où le plantain et les orties obstruaient les anciennes allées. On cultivait maintenant des légumes dans les plates-bandes, de sorte qu'entre les choux et les raves jaillissaient encore quelques touffes de roses et de giroflées. Je confiai mon cheval à un gars costumé en jockey qui m'apprit que sa maîtresse était chez elle, et je montai avec précaution l'escalier dont les marches en bois formaient presque autant de bascules. Le valet, occupé dans l'antichambre à attraper des mouches, me conduisit en souriant avec complaisance par une enfilade de pièces délabrées où se reflétait le caractère de celle qui en faisait son gîte. Les murs semblaient crier des maximes d'économie. « Ne jetez rien, ne réparez rien !» Et ça et là, ils laissaient pendre leurs tapisseries en morceaux, comme des affiches déchirées au coin des rues. Dans tous les angles se tendaient de grandes toiles d'araignées, dont les fils couraient d'un tableau à l'autre. Les araignées aussi, pour de bonheur. Tous les sièges se dérobaient sous des housses de toile grise, rappelant la cendre des Juifs au jour de la réconciliation. Dans les bahuts et sur les étagères, se mêlaient à la vieille argenterie les objets les plus hétérogènes. Souliers de bal sans semelles, peaux de lièvre, bouquets flétris, vieux journaux, éventails cassés, squelettes de chapeau, un bras de statuette, un collier de chien, un jouet d'enfant, la moitié d'un peigne, de vieux clous, des noisettes sèches, des brosses à dents usées. Un serin de mauvaise humeur piquetait du bec quelques draines de lin dans sa cage, dont les fils de fer étaient remplacés par un entrelacement de ficelles. Auprès d'une fenêtre, je lisais un calendrier de 1840. Le secrétaire supportait quelques belles pièces de vieux saxes, plus ou moins ébréchés, mais aussi de grands ciseaux ouverts, couverts d'une rouille pareille à des taches de sang, de vrais ciseaux de parc destinés à trancher la vie des mortels. Un encrier d'argent barbouillé d'encre, un vieux hac qui servait d'essuie-plume et un amas de papier saupoudré de tabac brisé. On respirait dans cette étrange demeure l'odeur mixte qu'exhale un fruitier et un garde à manger. En effet, des poires et des pommes à demi-mûres étaient dispersées au bord de toutes les fenêtres et sur toutes les tables où elles pourrissaient, tandis que des débris de victuailles de toutes sortes, soigneusement conservés, se décomposaient de leur côté en attirant une multitude de mouches. Varvara Bromska me reçut dans sa chambre à coucher, où elle était en train de s'attiffer devant une grande glace. Elle me tendit sa belle main, froide comme le marbre, et m'invita poliment à m'asseoir auprès d'elle, sur un petit divan d'où sortaient de tous côtés des mèches d'étoupe. À la tête du large lit italien s'entrecroisaient deux sabres recourbés autour d'un revolver, et sur la table de nuit était jeté un poignard. La pendule marquait 11h30. Je trouvais Madame Bromivska belle encore pour son âge. Elle n'avait perdu ni ses cheveux, toujours frisés avec art, ni ses dents sans défaut. Il lui restait même une certaine fraîcheur, à laquelle le fard contribuait sans doute, mais son visage avait pris avec l'âge une étrange expression de méfiance et de méchanceté. Deux plis profonds allaient des coins de sa bouche au bas de menton, dessinant ce qu'on eût pu prendre de loin pour une sorte de moustache sarmate. Ses yeux brillaient comme le tranchant d'un couteau. En vérité, il se plongeait dans votre cœur, ni plus ni moins que le glaive le mieux aiguisé, pour disséquer ce cœur sans miséricorde. Mais ce qu'il y avait de plus remarquable en elle, c'était sa toilette. Je n'en avais jamais rencontré de pareille. Évidemment, elle portait, pour ménager ses robes neuves, des vieilleries du passé, des vieilleries d'apparat. Une mantille de velours bleu, qui laissait la ouate s'échapper aux coutures. Une vieille robe rose, d'où pendait un falbala, décousu peut-être dans un bal par le pied de quelque cavalier maladroit. Il y avait de cela 20 ans et plus. Et sur sa tête était posé un fez turc, et la finesse de ses pieds se perdait dans de grosses pantoufles en feutre. Je lui dis d'abord le chagrin que m'avait fait éprouver l'abattage de sa magnifique futaie, en cherchant à lui persuader que ce sacrifice était mal entendu, même au point de vue de l'économie. Elle tira une longue bouffée de sa cigarette. « Oh, répliqua-t-elle, je sais tout cela, mais je sais aussi que je ne vivrai point éternellement. » Je veux donc jouir de mes biens tandis que je vis. Ce n'est pas l'abattage de ma futaie qui vous amène. En quoi puis-je vous être agréable ? Tirant de ma poche la feuille de papier où s'alignaient déjà plusieurs souscriptions, je me mis en frais de rhétorique. Elle sourit un peu embarrassée. Oh, je veux bien contribuer à cette œuvre selon mes moyens, dit-elle enfin. On m'a déjà parlé de votre peintre. Oh, je ne doute pas de son génie, mais pour parler franchement, ce génie, ne croyez-vous pas de l'étouffer? Ah, madame, vous ajoutez donc foi, vous aussi, à cette sotte redite que le talent ne grandit que dans la misère. Il est prouvé cependant que les plus grands esprits ont été ceux que ne tourmentait pas le besoin de produire pour satisfaire aux nécessités vulgaires de la vie. « C'est possible, » répondit-elle, en cherchant dans ses poches quelques menues monnaies de cuivre. Puis elle prit la feuille, s'approcha du secrétaire, écrivit 2 ou 3 mots qu'elle sécha au moyen d'une pincée de sable prise dans le crachoir, compta et se relut encore une fois, puis me rendit en soupirant la liste « plus de 50 kreutzer ». Oh, tout ce que je vous demandais, c'était de me dire si le jeune homme était vraiment digne de notre compassion, de nos secours. Vous êtes-vous bien assuré de sa reconnaissance? Vous paraissez avoir un bon cœur. Oh, les gens l'abuseront souvent. Elle se laissa retomber négligemment sur le sofa auprès de moi. Quand on montre tant de sensibilité à propos de quelques méchants arbres, qu'est-ce que cela doit être, bon Dieu, quand il s'agit d'un homme? Oh, permettez cette observation à une vieille femme. Je ne vous crois pas un garçon pratique. Cela viendra, monsieur, avec le temps. Il faudra que vous vous pénétriez d'une chose. C'est que dans ce monde, il ne s'agit pas de cœur bon ou méchant, mais d'une loi de nature. Celui-ci profite de celui-là tant qu'il peut. Il n'est personne qui hésite à se servir pour atteindre au plus haut d'une échelle vivante, oui, d'une échelle formée de têtes d'homme. Elle fit un mouvement du pied. On eût dit que ce pied se posait avec joie sur la nuque d'un des malheureux qu'elle avait renversé impitoyablement comme les chaînes séculaires de sa forêt. Oh, permettez-moi, madame, de vous contredire à mon tour, répliquai-je en m'efforçant de rester poli. L'expérience nous enseigne à aider le prochain, ne fût-ce que par intérêt personnel, afin d'être secourus nous-mêmes, le cas échéant. Mais c'est tendre la main à la paresse, à la sottise, s'écria madame Bromiska, tout agitée. L'indigent ne peut s'en prendre de son indigence qu'à lui-même. Oh, pas toujours. Il y a une sorte de pauvreté qui, comme la richesse, étouffe nos élans, paralyse nos forces. Ah, ah, vous êtes aussi des ennemis de la richesse. Vous nourrissez ces dangereuses idées modernes qui conduisent au communisme. Vous faites l'apôtre du partage universel. Vous vous trompez, madame, répondis-je. Je crois impossible de rendre tout le monde riche, car si chacun était riche, tout le monde manquerait du nécessaire, personne ne voulant plus travailler. Jusqu'ici, malheureusement, ni les philosophes ni les économistes n'ont réussi à résoudre le grand problème d'un partage équitable de la propriété. Mais il me paraît hors de doute que, dans la classe moyenne seulement, la vie d'un peuple, celle de l'humanité tout entière, pousse de saines racines. La pauvreté, comme la richesse, a toujours arrêté le progrès. Richesse et pauvreté sont les différentes formes de la même maladie. La santé n'existe que là où vous trouvez en équilibre le travail et le gain, et là aussi à la liberté. La propriété sans le travail engendre la tyrannie, et le travail sans la propriété conduit à l'esclavage. Mais c'est tout à fait selon la nature, décida la baronne en roulant une nouvelle cigarette. Le croyez-vous, madame ? Moi, je crois tout le contraire. D'où vient que les descendants de familles riches déclinent à la seconde ou troisième génération, tandis que les descendants des pauvres s'élèvent tout aussi sûrement, de sorte que la nature, en somme, tient la balance égale entre la richesse et la pauvreté ? Il faut que dans la première, il y ait quelque chose de démoralisant, et dans la seconde, une force qui nous pousse et nous fait aspirer en haut. Vous avez raison, répliqua la baronne, et j'ai eu l'occasion d'observer cela par moi-même. Mais je tords seulement un coup d'œil sur notre pays. Voyez comme tout a changé ici pour les deux grandes races dominantes, la noblesse polonaise et le paysan petit russien, depuis 1848. Notre noblesse déchoit de plus en plus, tandis que le paysan prospère. Alors vous reconnaissez donc que la circulation de l'argent s'accomplit selon les lois de la nature, tout comme la circulation de la vie. Ah, c'est pour cela, s'écria la baronne. Ah, c'est pour cela que je remercie Dieu d'avoir pas d'enfant qui gaspillerait les biens que j'ai su acquérir. Ah, vous ne pourrez pourtant, madame, emporter votre argent là-haut. Malheureusement non, mais j'ai depuis longtemps réfléchi à ce que je ferais en cas. Elle fut interrompue par les aboiements d'un petit roquet qui s'élança dans la chambre. Tout blanc et joliment rasé, il avait une crinière et une queue de lion. Chaque poil de son corps se hérissa de colère à ma vue, comme s'il eût voulu me déchirer. Paix, Mika, dit la baronne en le caressant. Regardez cette chère petite bête, monsieur. Tandis que les enfants nous coûtent tant d'argent, Mika m'a valu un héritage de 10 000 florins. Comment cela ? Madame Bromirska leva ses regards vers le ciel, ou plutôt vers le plafond, où se balançait l'étoile d'araignée. Mais l'héritage de mon amie, la baronne Zantner, elle ne voulait confier ce petit animal qu'à moi seul, qu'elle aimait tendrement. Aussi donna-t-elle l'ordre de me le porter après sa mort avec une somme de 10 000 florins. Mais Mika nous a interrompus. Où en étions-nous ? Et la baronne se tourna vers moi en souriant. Que voulais-je dire ? Ah oui, oui, la richesse est en effet, sous certains rapports, une cause de souci. On possède et on ne jouit pas. Je ne peux pas manger mon argent, il faudra que je le laisse, sans emporter seulement une obole pour Caron. Oh, c'est triste. Eh bien, madame, vous voyez que cette seule pensée gâte pour vous les joies de la possession. Et peut-être y a-t-il des jours où d'autres nuages se joignent à celui-là pour vous attrister. Vous admettez donc avec moi que les lots s'égalisent et que la nature est juste en définitive. Celui qui, avec une poche vide, a le cœur gai, tient sa part de félicité terrestre. Il donnera plutôt à 9 sur les 2 qu'il possède que le riche n'en donnera 1 sur 60. Et pourtant le plaisir de donner est infiniment supérieur à celui de recevoir. Oh, quelles illusions ! Fit la baronne avec dédain. Si vous voulez que je vous sois sincère, j'avouerai que je n'ai ressenti aucun plaisir en faisant l'aumône à votre peintre. Ma grande crainte, c'est que le communiste soit vainqueur à la fin, mais j'espère bien ne pas voir cela. Nos paysans, cependant, ne se gênent pas déjà pour prendre du bois, du blé, des fruits, tout ce que Dieu fait croître, et ils ne croient même pas pour commettre de péché. Bien parce qu'ils s'imaginent que Dieu fait mûrir pour tous les fruits et les légumes, répliquai-je. Le même homme qui ne vous reconnaît pas le droit de poser une clôture à votre champ vous rendra finalement votre portefeuille bourré de billets de banque si le hasard le lui fait trouver. Je ne justifie pas à nos paysans de s'approprier sans scrupule ce que le riche leur enlève, à les entendre. Mais rappelons-nous pourtant, madame, que saint Augustin a dit « Le superflu du riche est le nécessaire du pauvre. » J'ai mon opinion sur ce point, répliqua la baronne. Vous ferez le signe de la croix si je vous la dis, car elle n'est ni chrétienne ni moderne, mais enfin, c'est mon opinion. La misère, sans adoucissement, sans espérance, sans secours, comme elle existe aujourd'hui, n'est qu'une conséquence de l'abolition de l'esclavage. Vous vous étonnez, c'est pourtant ainsi. Considérez la Russie, l'Amérique. Vous ne pourrez me donner tort. Autrefois, le planteur soignait, protégeait son esclave. Le serf, lui aussi, était fort bien traité par son seigneur. Chez nous, le noble vint en aide au paysan tant que celui-ci lui appartint. Il l'aidait à rebâtir sa maison dévorée par le feu. Il lui donnait du blé aux époques de disette. Et que fait-il en sa faveur maintenant? Rien. Pour le pauvre, je le répète, l'esclavage est un bonheur. Et jamais de cet esclavage on ne réussira, entendez-vous? Jamais à supprimer que les bienfaits. Ces maux subsisteront, quoi qu'on fasse. De même que le peuple le plus fort et le plus riche soumet le plus faible et le plus pauvre, de même en est-il entre les individus. Chacun dispute à l'autre l'air, la lumière, la vie, comme font les arbres dans la forêt. Or, ne vaut-il pas mieux que le plus faible se rende et que le plus pauvre offre volontairement sa nuque aux pieds du riche? Les hommes grossièrement organisés, les hommes du peuple, sont formés par la nature pour nous servir, nous autres, qui sommes d'une constitution plus fine, plus délicate, mais qu'ils travaillent afin que nous puissions vivre agréablement. C'est justice. Croyez-vous que la splendeur du monde antique, qui excite notre enthousiasme à un si haut degré, eût été possible sans l'esclavage? Chez nous, je parle du temps de la République polonaise, tout gentilhomme avait les mêmes privilèges qu'un citoyen libre de la Grèce et de Rome, et le paysan labourait pour lui afin qu'il pût se vouer sans réserve au bonheur de la patrie. Mais les idées philanthropiques ont gâté tout cela. Quand il s'est trouvé des nobles pour pérorer sur les droits naturels et le contrat social. Bon, vous savez toutes ces choses mieux que moi. Vous savez quelle révolution ces philosophes bienfaisants ont provoqué, comment la Pologne a été déchirée, comment est née la Révolution française. Oh, pardon encore, madame, hasardai-je, mais il me semble que la triple tyrannie de l'aristocratie, du clergé et des partisans de la cause polonaise a produit l'esclavage des paysans, la persécution des sectes dissidentes et des petits Russiens, la perte de la Pologne en un mot. Quant à la France, je ne veux pas me disputer avec vous, interrompit la baronne. Je n'ai prétendu dire que mon opinion. Je prête volontiers l'oreille, moi aussi, à celle d'un étranger, pourvu que la discussion n'entraîne ni contrainte ni violence. Cette façon de s'échauffer, surtout, ne me plaît pas. Elle me semble propre qu'à exciter du trouble et de l'agitation. Tandis qu'un échange de pensées discrets et mesurées peut contribuer à notre plaisir, à notre instruction. Bon, finissons-en pour aujourd'hui. Si vous voulez venir quelquefois tenir compagnie à une vieille femme, vous ferez une bonne œuvre. Que le ciel vous bénisse. Elle me baisa au front et me congédia de cette façon hautaine que les vieilles dames chez nous ont en commun avec les princes de l'Église et autres potentats. Je regardais instinctivement la pendule. Elle marquait toujours 11h30. Dieu sait depuis combien de jours.